Nous avons vu précédemment les deux premiers sauts, donc qui sont que tout ce qui est contaminé est souffrance et que tout ce qui est composé est impermanent. Et pour résumer, on peut dire que sont là exposés respectivement les deux vérités, les deux premières, qui sont la vérité de la souffrance et la vérité de toute origine. J'ai oublié de vous dire bonjour. Dans ces quatre sauts qui signifient la vue contenue dans la parole du Bouddha, totalité, ces quatre sceaux expriment en totalité l'enseignement du Bouddha et sont spécifiques à l'enseignement du Bouddha. Si éventuellement certains ne réfutent ce point de vue en émettant que certains de ces quatre sceaux sont la vie du Bouddha, d'autres ne le sont pas. Ou ne sont pas la spécificité de son enseignement, il n'en est pas ainsi. Ces quatre sceaux reflètent effectivement et exclusivement ce qui est propre même. Et oui, également, j'ai oublié de dire quelque chose. Ce serait peut-être une bonne chose pour les deux sessions d'aujourd'hui de faire au milieu une petite pause de 10 minutes ce matin et cet après-midi. Et pour éviter, comme c'était sans doute le cas hier, que avec trop de paroles de ma part, certaines personnes s'épuisent parce qu'il y a vraiment trop de choses qui sont dites. Donc pour faire petite pause au milieu serait la bienvenue pour ceux-là, et également pour ceux qui souhaitent faire une petite pause toilette. Voilà. Donc à 10h10, on fait une pause de 10 minutes. 11h10. L'ensemble des enseignements de peut être décrit comme celui qui est entièrement contenu dans ce que l'on appelle les trois corvées. Mais également, cela peut être exposé comme ce qui relève des trois entraînements, la discipline éthique, le samadhi et la suprême connaissance. Et ces trois entraînements eux-mêmes, donc totalité, on peut dire qu'il est signifié précisément dans ces quatre sauts du point de vue de la mise en œuvre, de la mise en pratique de ces quatre sauts, et ainsi ces quatre sauts sont effectivement la pensée éveillée du Bouddha, et donc ce qui est unique. Il n'appartient qu'à la pensée éveillée du Bouddha. La parole du Bouddha se développe sous deux aspects. Tout ce qu'il enseigne du point de vue du sens provisoire et ce qu'il enseigne en tant que sens définitif. Je pense que c'est bien aussi de présenter, de voir les choses sous cet aspect. Et si pour soi-même on comprend bien quelle est cette nuance entre sens provisoire et sens définitif, alors là s'avérer d'une très grande aide pour l'application à notre propre pratique. Ta sanje ki,
Nizhungi Nintar Lodu Kawanchi Dodi Tengi Changju Shindong Yohola Yomur Tobu Sangi Dene Ansorta Varanasi Dong Delaya Konga de Samunda Temba Shigi Chungur Tangu de Kodius.
On peut ainsi, dans cette perspective, parler des 12 actes majeurs qui furent ceux de la vie du Bouddha Shakyamuni. Donc, le premier, au début, étant son incarnation dans le ventre de sa mère. Ensuite sa naissance à Lumbini, puis ensuite il y a eu son détournement, renoncement au monde, au samsara, puis ensuite ses années de pratique ascétique, et puis ensuite sous l'arbre de l'éveil, au lieu dit siège adamantin, Bodh Gaya, l'actualisation de l'éveil totalement parachevé, et puis ensuite au lieu dit de Sarnath, lorsqu'il a enseigné pour la première fois, le premier tour de la roue du Dharma, lorsqu'il a enseigné les quatre vérités des Aryas,
Dinde Kurma de Sambu Tambu Tundinde San Magi in your layer Kandaka to ching, to shooting in Sashi in the process. To shooting.
Et donc, si on prend les cinq disciples qui étaient présents pour écouter son tout premier enseignement à Sarnath. Ces cinq disciples précédemment avaient pratiqué cette voie de l'ascèse extrême. Cette occasion que le Bouddha les avait déjà rencontrés précédemment, donc avant que lui-même parvienne à l'éveil parfaitement accompli, où il avait fait donc ce moment de son parcours spirituel qui l'a mené au parfait éveil, où il a éprouvé les différentes voies spirituelles possibles. Autant en tant que compréhension, point de vue, que pratique au long des différentes pratiques d'ascèse extrême qu'il a entrepris pendant ces années avant d'atteindre l'éveil. Et c'est dans cette période qu'il a donc ces cinq à sept, qui les a connus, co-disciples en quelque sorte, et qui donc seront également devant lui lorsqu'il a enseigné les quatre nobles vérités pour la première fois.
Shishiwa, Roto, and then the time is about. I call a new moon ever silver. That call a new moon ever seen in December, that call a tender new moon ever, 탈게 탑질라 다 배나마도 저게 민두로 삼네 내가 겨시 겨시도 또 강조해 겨시 방법을
Donc comme je l'évoquais déjà hier, il y a eu pour le Bouddha, alors prince dans son palais, cette prise de conscience lorsqu'il est sorti du palais pour la première fois et qu'il a vu ce que sont les quatre souffrances majeures de la condition humaine, ce qu'il en est de la maladie, du vieillage, de la naissance, de la mort, donc la mort qu'il n'envisageait pas, voyant un homme mort, un cadavre. Et dès lors, suite à cette prise de conscience de la souffrance qui est le propre de la condition humaine, il en a conçu un profond et total renoncement au cycle des existences, au samsara, n'ayant donc plus une seule idée en tête, c'est-à-dire la libération. Et il a compris que la libération, on ne pouvait pas l'accomplir sans fournir un réel effort. Et c'est pour cela donc qu'il a quitté sa vie royale, sa condition royale, et donc le palais et le royaume qui lui était promis.
Tā tūṋdā kāshīyā tēlā, āñā sūsū lūlā kāsā wā, tā lūdī tēkwā shūshū bōyī yāsā āñā lūbū tēkwā tāṋā āñā shū kāwā chēbā yīnā lūbū tēkwā āñā trīpā tā kārāngī āñā kō tāpā tōgī rēs chēnē āñā tā
Et donc il est parti en quête de la voie qui mène à la libération. Et pour cela, donc, il a essayé différentes voies, épreuves, voire mener à la libération. Et dans ces différentes traditions, chacune présentant une voie de libération, il a par exemple... essayer, mise à l'épreuve, cette pratique, qui sont donc les pratiques ascétiques qui soumettent le corps à un exercice ascétique très dur. Parce que du point de vue de cette croyance, le corps est très important et c'est en soumettant le corps à des privations qu'on peut se purifier des voiles qui nous souillent, qui nous obscurcissent, et parvenir à la libération. Donc il a essayé ce genre de
voie. Then I think that low to learn car, the little car was not a little one. They also, I need a tall, then too young, then I think a little car to the night.
Et c'est ainsi donc que pendant six années, ce sont les six années de la vie du Bouddha où il a soumis son corps à une ascèse extrême. Mangeait très peu et donc en s'astreignant à tous ces différents exercices contraignants, ascétiques, très durs pour le corps, pendant six années. Et donc c'est pendant cette période qu'il avait des vos disciples, c'est-à-dire qui eux aussi pratiquaient ainsi sur cette voie de l'ascèse extrême. Jusqu'au jour où le Bouddha a compris par lui-même que cela ne menait à rien, que ainsi soumettre le corps à tant de difficultés et d'ascèse ne permettait en rien de parvenir à la libération. Et donc ce jour-là, ayant compris cela, il a cessé sa pratique ascétique, et en particulier donc, il s'est remis à manger. Voyant cela, ses co-disciples ont été très mécontents de voir que il renonçait à la voie de libération, puisque pour eux, il était définitif et certain qu'il n'y avait que l'ascèse et les privations qui pouvaient mener à la purification et à la libération. Et donc, en le voyant arrêter cette voie de l'ascèse, le voyant manger, ils ont été très, très mécontents de lui. Voilà, il a ainsi compris que la libération ne s'obtient pas par le corps privation physique, mais que la libération relève uniquement de l'esprit. Ayant compris cela, il est alors allé méditer sous cet arbre, connu comme l'arbre de l'éveil, à Bodh Gaya, là où il est parvenu, à l'éveil totalement parachevé, à la libération. Ayant atteint cette réalisation, l'état de Bouddha parfaitement accompli, il a donc mené à sa perfection totale, de par cette réalisation, donc, tout ce qui est la voie également donc, qui mène à cette parfaite réalisation. L'enseignement juste et ultime, le samadhi qui est cette réalisation et mène à cette réalisation. Et dès lors, et il a enseigné cela. Et à ce moment-là, ce furent parmi ses co-disciples, donc ces cinq premiers auditeurs qui ont écouté son premier enseignement sur ce qu'est la libération et la voie qui y mène.
Des années, en décembre, vous avez dit que vous n'en avez pas, de me perdre de ce coin, je tombe dans l'arbre, je vais rester.
Et donc, alors que le Bouddha est parvenu à l'éveil parfaitement accompli, ses cinq co-disciples sont venus le trouver et ils étaient toujours dans une mauvaise disposition envers le Bouddha, puisqu'ils le considéraient toujours comme un pratiquant qui avait renié la voie de l'ascèse, qui avait quitté la voie de la libération. Et donc, ils étaient toujours mal disposés à son égard et sceptiques de ce que le Bouddha soit parvenu à la totale et parfaite libération sans avoir mené à son terme la voie de l'ascèse. Pour eux, ça n'était pas vraisemblable. Et c'est donc dans de telles dispositions qu'ils sont venus retrouver leur ex-co-disciple, qui sont venus auprès du Bouddha. Alors, à ce sujet, il y a différentes versions qu'on va trouver dans les différentes présentations de l'histoire du Bouddha Shakyamuni. Il y en a différentes versions, dont celle qui est dans le Kangyul, mais également d'autres, suivant tel ou tel texte, telle ou telle tradition. Il y a différentes versions et qui, donc avec des nuances, qui présentent différents détails, quelques différences quant à ces moments majeurs de la vie du Bouddha, et puis tout, donc, tout le déroulé de la vie du Bouddha. Mais disons que on ne va pas s'engager dans la comparaison entre les différentes versions. Disons que voilà, donc à ce moment-là, donc à Sarnath, le Bouddha a retrouvé ses cinq auditeurs qui sont proches, ce que l'on appelle les quintuple bon entourage, hein, les cinq premiers qui ont entendu son enseignement à Sarnath, qui étaient ses co-disciples.
Précédemment. 지원 좀 많이 무슨 다 텐데 다 고된다 고된데 남 텐데 텐데 토피야 버티게 남샤데 수신도 손에도 준대게 남샤데 아니 로마데 오늘 전에게 다 오늘 주던 되고 생기게 또 또네 아니 그런데 잡 제일 그런 잡때 콜나
Et le Bouddha leur a donné ce tout premier enseignement sur les quatre vérités. Il les a ainsi convaincus par rapport à leur méfiance, leur scepticisme, et les a convaincus et donc embrassé dans sa protection leur expliquant ce qu'il en était effectivement de la vérité au travers de ces quatre vérités qui sont celles des Aryas, des nobles qui sont libérés, comme on voit maintenant à la libération. Ces quatre vérités, il les a enseignées principalement, justement, en exposant le principe de causalité. Telle cause produit tel effet. Et ainsi, pour les deux premières vérités, la cause qui est l'origine, qui est la vérité de l'origine, la vérité de toute origine, donne pour résultat la souffrance, la vérité de la souffrance. Donc ces deux premières vérités se placent comme cause et résultat. Et il en est de même des deux vérité suivante, la vérité de la voix se place comme la cause qui amène au résultat qui est la vérité de la cessation de la souffrance. Donc c'est le principe de causalité même, de cause à effet, qui est sous-tend la validité d'exposer les quatre vérités.
D'une tenue, sans dire qu'il n'y a pas de
Et donc c'est ainsi par ces paroles de vérité, essentiellement dans ce qu'est l'intelligence et la connaissance de ce qu'est le principe de causalité, telle cause amène tel résultat, et le principe qui est celui de l'interdépendance, de la production d'origine dépendante, c'est ainsi que le Bouddha a présenté ces quatre vérités, que ces paroles de vérité ont véritablement convaincu chacun de ces cinq disciples qui au départ n'étaient pas très disposés. Ils ont été totalement pénétrés de ce qu'étaient des paroles de vérité authentique, comprenant ce qu'il en est effectivement de ce principe de causalité, de ce principe d'interdépendance, et donc comprenant toute la pertinence et la justesse de ces quatre vérités, ils se sont consacrés à la loi sur la base de ces quatre vérités. Et sont parvenus à la libération eux-mêmes, l'état d'Arhat. Ce fut le premier tour de la roue du Dharma, les quatre nobles vérités. Le deuxième tour de la roue du Dharma fut donné plus tard, le deuxième enseignement du Bouddha, et donc son enseignement majeur qui est appelé l'enseignement de la vue d'absence de l'âme mystique. C'est là donc qu'il a enseigné sur la transcendante de suprême connaissance, la Prajnaparamita. C'est-à-dire que au cours de ce deuxième enseignement majeur, il a enseigné ce qui est du point de vue de la réalité absolue, le principe de la vacuité et tout l'exposé des terres et des chemins de l'éveil. Et le troisième grand enseignement, le troisième tour de la roue du Dharma, l'enseignement majeur du Bouddha, fut donné ensuite dans la cité de Shravasti. Shravasti, c'est quoi? Shravasti, c'est non loin de Lumbini. Et alors, quel est l'enseignement qu'il a donné pour la première tour de la roue du Dharma? Donc, on a vu que le premier, essentiellement, il a exposé le principe qui est celui de l'interdépendance, de la causalité. Deuxième tour de la roue du Dharma, c'est essentiellement la vacuité. Alors, le troisième tour de la loi, qui est appelé l'exposé du parfait discernement, on peut dire qu'il a enseigné sur le principe de clarté ou de luminosité, c'est-à-dire l'union indissociable de la clarté et de la vacuité.
Et
Alors, on peut se demander comment doit-on comprendre ces trois exposés successifs de l'enseignement, le premier, le deuxième, le troisième. Est-ce que c'est le même enseignement ou où se situe le véritable enseignement, celui qu'il faut retenir? Et en fait, le Bouddha a enseigné sur le fond toujours ce qu'on appelle donc l'union de la clarté et de la vacuité. Premier, deuxième et troisième tour de la roue du Dharma, au fond c'est cela qu'il enseignait. Maintenant, il l'a enseigné, disons, de manière progressive, en mettant au fur et à mesure l'accent sur ce qui convenait pour pouvoir parvenir à l'exposé excellent, final, sur cette union de la clarté et de la vacuité. Donc c'est comme cela qu'il a commencé d'abord par exposer pour la première fois, surtout du point de vue du principe de causalité et de l'interdépendance, que dans le deuxième tour de la roue de la loi, il a mis l'accent là sur la vacuité, mais pas tant que ça sur l'aspect qui est appelé clarté ou luminosité, c'est surtout la vacuité, pour ensuite en venir finalement, pour le troisième tour de la roue de la loi, à l'excellent et parfait exposé, implicitement celui de l'union de la clarté et de la vacuité, et donc où là, il a présenté cet aspect qui est celui de la clarté, qui est nécessairement associé à la vacuité, comme étant donc en union indissociable. Et on retrouve donc ces trois tours de la roue du Dharma qui sont signifiés dans les quatre sauts du Dharma. Et à partir de cela, je pense qu'il est important de se rendre en pèlerinage dans ces hauts lieux où le Bouddha a vécu, donc ils sont les trois grands lieux donnés, les trois tours de la roue du Dharma. Donc pas seulement pour se promener, mais vraiment de s'y rendre, de les visiter comme lieu sacré, chargé de bénédictions, et pour soi-même recevoir toutes les bénédictions. C'est important de le faire. Ce sont des lieux où le Bouddha a été présent. Et de plus, où il y a enseigné, donc accompli un acte extrêmement puissant, hein, chargé en termes de bénédiction. Ce qui fait que par la présence et les bénédictions, ce qu'a fait le Bouddha dans ces trois lieux, le lieu lui-même est ainsi chargé de toutes ces bénédictions. Cela différencie complètement un lieu sacré d'un autre lieu. aussi beau soit-il, parce que un tel lieu sacré est chargé des bénédictions qui a laissé le Bouddha, et ce qui fait qu'ensuite, en retirant soi-même en tant que disciple cherchant également à atteindre soi-même l'état de Bouddha, à parvenir à la libération, c'est-à-dire avec la foi et la dévotion qui peut être en nous, notre esprit va véritablement recevoir quelque chose qui est véritablement reçu par l'esprit, ce qu'on appelle recevoir des bénédictions. C'est effectivement ce qui se passe à partir du moment où on a un esprit qui est empreint de respect et de dévotion, hein, on reçoit ces bénédictions quand on se rend dans ces lieux sacrés. Par exemple, c'est comme quand on se rend dans la maison de notre enfance, celle où on a vécu avec ses parents, où on a grandi avec ses parents, et puis quand on se rend dans une autre maison toute neuve, voilà, un peu ce genre de différence aussi. Et bon, les deux maisons éventuellement sont deux maisons, hein, elles sont identiques en tant qu'étant deux maisons, une maison. Mais à la différence, donc, celle de notre enfance, elle est chargée. Là aussi, on pourrait dire des bénédictions, entre guillemets, hein, qui sont celles de nos parents. Et ceci fait que notre esprit est touché par cela quand on se rend dans cette maison, alors qu'il ne sera absolument pas touché, transformé, ému, hein, quand il se rend dans une maison. Alors donc, ces quatre sceaux, donc, les composés sont impermanents, les contaminés sont souffrances. Donc, ensuite, alors, l'au-delà de la souffrance est fait, et puis tous les phénomènes, vacuités sont impermanents, sont dépourvus d'un soi. Alors, on s'est présenté dans cet ordre-là, mais logiquement, on penserait plutôt, et c'est une présentation possible aussi, d'abord expliquer la vacuité, l'absence d'un soi des phénomènes, et enfin ce qu'est l'au-delà de la souffrance, c'est-à-dire qu'il est paix. Et donc voilà, c'est plus logique, même si la présentation inverse a sa propre logique aussi, on va plutôt le présenter de cette façon. D'abord, l'absence d'un soi, des phénomènes, et ensuite la qualité du nirvana qui est paix.
Donc
hier, nous expliquions Le deuxième sceau, tous les contaminés sont souffrance. Tout ce qui est contaminé est souffrance. Et donc, qu'est-ce qui est contaminé? Ce n'est pas le corps hein, qui est contaminé, c'est notre esprit. La contamination, est celle du karma et des kleshas, les émotions perturbatrices. Donc c'est bien notre esprit qui est ainsi contaminé, non pas le corps. Ainsi, si j'observe un verre, je ne peux en aucun cas qualifier cet objet extérieur en tant que tel de contaminé ou non contaminé. C'est-à-dire que cela ne s'applique qu'à l'esprit qui perçoit ce
verre.
Donc, contamination, c'est ce qui s'applique à l'esprit. C'est lui qui est contaminé. Et par quoi est-il contaminé? Donc, par le karma et les émotions négatives qui eux-mêmes procèdent de l'ignorance fondamentale qui elle-même procède de la saisie égotique. Donc la saisie égotique est à l'origine de tout cela, toute contamination et donc toute souffrance. Alors qu'en est-il de cette saisie égotique? Quand on dit saisie égotique, littéralement, en mot à mot, c'est saisie d'un soi. Saisie d'un soi. La saisie d'un soi, elle est de deux ordres. Il y a soi de l'individu et la saisie d'un soi. Et voilà, il est l'heure d'une pause de 10 minutes. On se retrouve donc dans 10 minutes. Phénomène. qui signifie moi et l'individu, moi et ce qui est mon individu. Et donc, à partir de là, nous allons, par le raisonnement, voir en quoi il y a ou non un tel soi quant à l'individu et dans les termes de moi et de mien, est-ce que qu'est-ce qu'il en est de cela? Alors tout d'abord, ce que l'on appelle le soi de l'individu. Quand on parle de ce que chacun de nous, nous-mêmes, nous considérons comme nous-mêmes, c'est-à-dire ce que l'on appelle formellement le quintuple agrégat. Qu'est-ce qu'on entend par quintuple agrégat? On entend cette forme corporelle qui est la nôtre, qui nous forme en tant qu'individu. Et donc, au final, il n'y a absolument aucun soi qui... c'est cette forme, ce quintuple agrégat que nous sommes. Nous y identifions. Donc, tel est le. Cet agrégat et en même temps on dit que l'individu est dépourvu d'un soi. Ça c'est une façon de formuler les choses qui peut paraître peut-être contradictoire ou étrange. Et donc alors on peut ainsi dériver dans des explications compliquées. Je vais plutôt prendre un exemple simple à comprendre. Deux exemples.
J'étais dans France, dhāvā tē, māshā dhūkē dhāvā lē sē.
Et si la nuit, nous contemplons la lune, nous allons avoir tendance à penser, voyant la lune, c'est la lune de mon charbon. N'est-ce pas?
Mais, c'est dingue, dans le Coran, mon Dieu, donc, dans la femme marée,
Chardon, mais pourquoi pas, on pourrait le dire ainsi, le formuler ainsi, même si évidemment ce n'est pas la lune de mon chardon.
Mais quand si mon chardon est pas une, il peut être que tu as annoncé, tu es là, tu
parce que c'est une façon de parler. Parce que sinon, si vraiment la lune qu'on voit mon chardon, c'était la lune de mon chardon, alors il y aurait, là, en fonction des lieux, différentes lunes. Il y aurait la lune du Tibet, etc. Une lune pour chaque pays, une lune pour chaque endroit. Donc, ce qui n'est pas le cas. Mais on peut, pourquoi pas. Une telle saisie peut être faite comme ça.
Et
de penser de très très nombreuses choses, hein. Ça c'est mon repas, ça c'est pour n'importe quelle chose, c'est ma chose ou notre chose, c'est notre ciel, c'est notre terre, etc. Ça propre. Parce que si c'était comme cela, que les choses appartenaient au lieu, alors par exemple, en Europe, il y aurait les insectes de l'Europe.
Les
insectes européens. Donc on voit bien que tout cela ne sont que des conventions imposées par nos esprits. Pour prendre un deuxième exemple, on a de telles conventions de langage, objectivement, le ciel n'a pas de couleur, il n'est pas au-dessus de nous, mais on, voilà, on le dit. Convention de langage. Et voilà donc comment nous appliquons exactement la même perception qui est fondamentalement erronée, mais donc coutumière, où nous nous considérons nous-mêmes cette forme corporelle, cet agrégat, comme étant nous-mêmes, et nous le saisissons ainsi, soit comme étant moi, soit comme étant à moi, alors que de fait, il est parfaitement dépourvu d'un tel soi, comme on le dit. Et donc bien qu'il n'y a absolument rien de tel qu'un soi ou moi au niveau de notre forme corporelle, c'est avec saisi quand même comme tel. Et donc en quoi ce que nous croyons être pourvu d'un soi ne l'est-il pas? Alors là, avec deux approches. Un soi inné et un soi induit ou d'imputation.
Dans l'énergie de Dacia, tu es pris pour le chef de l'énergie, tu es pris pour le niveau de son état, tu es pris pour le temps de la vie, tu es pris pour le temps de la vie, tu es pris pour le temps de la vie, tu es pris pour le temps de la vie, tu es pris pour le temps de la vie, tu es pris pour le temps de la.
Alors, ce que l'on entend au niveau de cet agrégat, comme étant le soi inné, c'est ce qui procède essentiellement de l'erreur qui procède de notre propre. Connaissance du principe même d'existence de cet agrégat, de ce corps, comme possédant de causes et de conditions, et donc entièrement régi par le principe d'interdépendance. Nous sommes donc dans une complète ignorance de ce fait, et nous lui attribuons un soi. Du soi inné, hein, celle qui est directement associé à l'état d'ignorance quant à la nature réelle de ce corps qui est conditionné et régi par l'interdépendance.
Linjigatage, chulu thoni ya yungu je drupta ke thoni ya.
Alors, ce qui se rajoute ensuite à ce soi inné, le soi induit quant à l'individu, et ça va être du fait des différents systèmes philosophiques ou différentes traditions religieuses qui, chacun, chacune à sa façon, va tenter de démontrer, d'affirmer ce soi inné, qui est donc le propre de l'individu, comme il y a une entité qui est un soi réellement existant, permanent. Et donc pour réfuter qu'il n'y a pas un tel... pour réfuter ceux qui diraient qu'il n'y a pas de soi, pour réfuter cela, donc, ils vont, avec toutes sortes d'arguments, étayer cette démonstration que le soi inné de l'individu existe bel et bien, qu'il est quelque chose de permanent, d'indépendant, de réellement existant, d'existence, de réalité intrinsèque, etc. Et donc tout ce raisonnement rajouté, et donc induit, et vient se rajouter au soi inné. C'est cela ce que l'on appelle le soi induit. Donc, ce qui est développé par d'autres traditions pour prouver l'existence du soi inné.
Te kunda ke taki te taku tamji shi san tok tuku yungu nisitwa. Te yendu, te tambu, koto dando te tambu kunda ke taji fasen. Kunda ke taji fasen ne, ta linji ke taji nage, te linji ke taji fasen ne.
Et du point de vue de la connaissance qui est celle il n'y a justement rien de valide dans ces deux assertions, ces deux aspects de l'assertion d'un soi de l'individu, aussi bien induite que innée. Et donc, on va tout d'abord réfuter tout ce qui est du domaine du soi induit, pour ensuite réfuter ce qui est l'existence réelle et la permanence
du soi inné.
Au soi qui est le soi induit, réputation conceptuelle, il est donc du domaine de ce que l'on appelle la réalité relative, hein, la réalité fictive. Et en fait, sur le plan relatif, celui de la réalité fictive, il y a une compréhension juste et une réalité fictive juste et une mécompréhension et donc une réalité fictive incorrecte. Même sur le plan relatif de la réalité fictive, il y a une compréhension juste et une
autre. J'ai dit, 대니나네 지 양다 공급단 로그를 들었으나 지 다시 통해 되고 내버려 다시 맞아요.
Bon, pour illustrer cela, prenons simplement deux personnes qui observent la lune. Donc, objectivement, sur le plan objectif, hein, il y a une lune dans le ciel. Il y a, pour ces deux personnes, une qui voit bien. Une bonne vue, une normale, donc, regardant la lune, il voit une lune. Ça, c'est la réalité fictive. L'autre personne, à défaut de la vue, voit double. Alors, il voit deux lunes. Eh bien, lui, pour lui, sa réalité fictive, subjective, est erronée. Maintenant, si on monte un niveau au-dessus, c'est-à-dire sur le plan de la compréhension éveillée d'un Bouddha, alors les deux sont erronés, hein, aussi bien l'appréhension correcte de la réalité fictive que celle qui est incorrecte. On voit une lune, deux, les deux sont erronés du point de vue donc de la pensée éveillée du Bouddha. Mais bon, on peut donc, si on se place uniquement dans le cadre relatif de cette réalité fictive, qui est ce dont on fait l'expérience, ordinairement, voir qu'il y a quand même une possibilité de perception objective ou vraie et de perception faussée. Puisque comme il n'y a effectivement qu'une lune dans le ciel, les personnes qui ont une vue, l'organe de la vue qui fonctionne normalement verront une lune, celui qui a une mauvaise vue, son esprit en verra deux. Donc son esprit va voir de manière faussée, alors que l'autre, qui voit une lune, voit de façon correcte. Et voilà cette nuance. Hein, alors que les deux personnes ne regardent qu'une et une seule, l'un voit correctement une lune, l'autre en voit deux. On établit donc ainsi correct et incorrect. Pour cet exemple, l'on va pouvoir, quant à ce qui est donc les démonstrations, les affirmations de l'existence d'un soi, qui est donc le soi induit, d'imputation conceptuelle, ce soit un huile donc qui est fait par différentes écoles différentes écoles philosophiques ou religions, eh bien, cela se soit induit correct. Donc, ce soit induit n'a pas la moindre réalité, la moindre existence, simplement le fait d'un raisonnement donc qui amène à une conclusion fausse, parce que l'esprit, celui qui mène à tel raisonnement, est obscurci par ses propres voies. Pas le moindre soi existant dans ce soi induit. Et tous les raisonnements qui le démontrent sont vraiment établis comme erronés. Maintenant, nous revenons au soi qui dit inné, hein, c'est-à-dire ce qui, en nous, du fait de l'ignorance, est, que ce soit envers l'individu ou envers les phénomènes, ce qui nous amène à saisir et nous identifier en tant que moi ou mien à cette forme corporelle, cet agrégat au phénomène. Ça, c'est donc le soi qui est également totalement faux. Donc, avec ce qui est instinctif, inné, de saisir ainsi cet individu comme pourvu d'un soi, on va ensuite saisir de la même façon une existence intrinsèque en soi dans les phénomènes extérieurs. Bon, c'est le processus dualiste logique, hein, qui se produit à partir du moment où on se saisit soi-même en tant qu'individu pourvu d'un soi. Eh bien, on va saisir autres, donc les phénomènes, hein, soi-même et autres, comme aussi pourvu d'un tel soi.
Rani la devo de nuova Rani la cheber temple sene ne Rani la devo ke thane ne shena ane tanwa shudan shudan la
Et donc, dès lors qu'il y a pour soi-même, du fait de cette saisie, de cette identification erronée, du fait qu'il y a pour soi-même, dès lors, expérience de plaisir ou souffrance, nous allons développer envers autre de l'attachement ou de l'aversion. Et donc c'est ainsi s'enclenche ce processus, mais tout notre fonctionnement dans le terme d'attachement et d'aversion envers ce qui est autre que nous, et quant à nous-mêmes, tout ce que nous allons pouvoir connaître en tant qu'expérience personnelle comme plaisir ou souffrance, c'est le fait de cette du soi de l'individu. Cette saisie d'un soi de l'individu, en fait, c'est une croyance de l'existence réelle de cet individu. Il existe réellement maintenant, il existait vraiment avant et il va exister vraiment après. C'est ce qui se produit à partir du soi inné qui le caractérise. Voilà donc comment nous fonctionnons ce qu'il en est. Alors que, au fond, c'est vacuité. Donc on parle d'absence d'un soi. Ce soi qu'on appréhende ordinairement, que l'on s'identifie, est une pure vacuité. Donc il n'y a absolument pas lieu qu'on le saisisse ainsi comme sien. Il est pure vacuité, exactement comme je le disais, pour la lune qu'on pourrait comme cela appeler la lune de mon chardon, mais qui au fond, bien sûr, n'est absolument pas la lune de mon chardon. Donc nous avons cette telle préhension saisie d'un soi qui nous affecte et qui dans lequel résultent toutes nos souffrances. Alors, quelle en est la cause ? La cause est l'ignorance, précisément l'ignorance qu'il n'y a aucun soi là où on en voit un, là où on en saisit un. Donc, pour se défaire de cette erreur foncière, de saisie égotique, Il faut dissiper cette ignorance, hein, quant à ce qu'il en est effectivement, que ce soit absolument pas la moindre existence. Et pour cela, donc, il va falloir y parvenir par le raisonnement, tout d'abord. Parce que on ne peut pas s'affranchir de cette saisie égotique et de cette croyance dans la réalité d'un soi comme cela. Ce n'est pas quelque chose qui va surgir spontanément dans notre esprit, être réalisé spontanément. On peut attendre longtemps, il ne se passera rien. Il faut donc tout d'abord, par le raisonnement, se démontrer à soi-même la totale absence d'un tel soi. Voilà, nous allons nous arrêter là pour l'heure. Nous continuons cet après-midi. Et alors cet après-midi, nous finirons sur les quatre sauts du Dharma. Également, nous réserverons un moment pour des questions-réponses.